De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
Je suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah oui, et vous êtes.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, après plus de 3 mois de fermeture, 90% du parc de salles a pu rouvrir et accueille de nouveau des spectateurs. Près d'1 million de tickets auraient été vendus en 7 jours, selon les exploitants, et c'est moins que d'habitude. Alors, dans ce paysage de reprise, les Américains fichent le camp. Ceux qui attendaient le film de Christopher Nolan, Tenet, le 22 juillet, vont devoir attendre le 12 août. Inception, du même réalisateur, est lui prévu le 29 juillet. Mulan, des studios Disney, passera l'été au frais. Il ne sera pas avant le 19 août sur les écrans. Et malheur, Bob l'éponge, le film éponge en eau trouble, qui était annoncé sur les écrans fin juillet, et sur lequel certains exploitants comptaient quand même pour attirer le jeune public, va directement sortir en VOD en 2021. N'en jetez plus, c'est le moment pour les productions françaises et surtout évidemment les comédies d'arriver sur les écrans. Et il y en a un certain nombre qui vont arriver dans les salles ces prochaines semaines. Mais dans cette émission, aucun film français. On va faire avec. Bonjour Manu, bonjour Guillaume.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Manu, 2 films.
Oui, et pas vraiment des comédies, puisqu'il s'agit d'un film d'horreur, The Demon Inside, et puis de la reprise du film de David Lynch, Elephant Man.
Et ce sera l'occasion de jouer un blind test spécial David Lynch, donc 5 extraits de films à écouter, et il faudra évidemment deviner les titres. Et toi, Guillaume, 1 film.
Oui, ce sera L'ombre de Staline d'Agnieszka Holland.
Et puis Marine, qui n'est pas avec nous dans ce studio improvisé, vous parlera de 3 étés, film brésilien, et puis de Mon nom est Clitoris, documentaire, dont le sujet n'est pas caché par le titre, voilà. Et ce sera en toute fin d'émission. Et puis quant à moi, je vous parlerai de Brooklyn Secret de Isabelle Sandoval. C'est une sortie du 1er juillet. Mais on débute avec un exorcisme qui a mal tourné, Demon Inside.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Hier soir, chez Joël, chez qui je fais du babysitting, il s'est passé une chose étrange.
Personne?
J'ai senti comme une présence.
Est-ce que les schizophrènes ont tous les mêmes visions?
Il m'a tous souvent là.
Alors s'il s'agissait d'un premier film, on pourrait, à la limite, pardonner les erreurs de débutants. Alors que nenni, il s'agit du 6e long métrage du sino-américain Pierre Reginald Théo, un habitué des directs vidéo horrifiques. Production indépendante fauchée, The Demon Inside cumule toutes les tares du film de démonologie au point d'en devenir gênant. Pendant 1 heure, le film suit un programme si balisé que l'on se demande vraiment à quoi rime l'entreprise. Alors Joël, un jeune père de famille en difficulté financière, est suivi aussi par une psy très présente pour une forme de dépression. Il soupçonne son fils d'être possédé par le démon. Désemparé, ne sachant vers qui se tourner, il va recevoir l'aide du père Lambert, qui vient de sortir de prison pour la mort d'un enfant lors d'une séance d'exorcisme. Le prêtre déchu voit dans cette requête une manière de trouver une rédemption et de livrer un combat homérique face aux forces du mal. Alors rien ne manque à l'appel, sont réunis dans ce grand cirque étouffe chrétien, la voix gutturale qui sort de la bouche du gosse avec les insanités d'usage, l'eau bénite, les spectres monstrueux qui hantent la maison, les litres de vomi vert ou de sang qui vont recouvrir les murs. L'ensemble se révèle d'une telle vacuité, d'un tel manque d'ambition, que l'on se pince pour ne pas sombrer dans un sommeil profond. Il est même incroyable que ce spectacle grand guignol, un peu desséché et ennuyeux, sorte sur les écrans, alors tant d'inédits mériteraient une exploitation en salle. Mais les voix du cinéma, comme celles du diable, sont parfois impénétrables.
Écoutez-moi bien, mon garçon. Le démon peut transformer la folie en sagesse. Et transformer la sagesse en folie.
Le scénario écrit par le réalisateur aurait pu être transcendé par une mise en scène inspirée. Évidemment, ce n'est pas le cas. Le récit baigne parfois dans une ambiance inquiétante grâce à la photographie sombre et lugubre. Mais cette note positive est constamment gâchée par une caméra atteinte de la maladie de Parkinson, un montage aléatoire confondant rythme et précipitation, jamais dans le bon tempo. Alors cette absence d'idées visuelles et même de simple efficacité tire le film vers le bas, à tel point qu'un tel calme plat ne peut que cacher un twist, ramenant le récit sur des rails moins balisés. Alors sans surprise, évidemment, il y a un retournement de situation, alors que l'on peut anticiper. Il a bien lieu, ce retournement, nous sortant quelque peu de la torpeur et parvient in extremis à susciter un tout petit intérêt pour cette série B estivale. Alors, tirer sur l'ambulance ne sert à rien, mais alors la direction d'acteur est catastrophique. Peu aidée d'ailleurs par une galerie de personnages unidimensionnels, tout ça n'arrange pas le cas de The Demon Inside. Alors, contaminé, il est vrai, par un démon pervers qui a dû s'amuser à pourrir encore davantage un film dénué de potentiel au préalable. Alors, petite curiosité pour les cinéphiles pervers surtout, la présence de la fille de Ryan O'Neill, Tatum O'Neill, qui était apparue dans quelques films dans les années 70 lorsqu'elle était adolescente.
Et bien voilà, c'est un film en tout cas qu'on ne conseille pas vraiment, ce qui n'est pas le cas du suivant, Trois étés de Sandra Cogut. C'est la critique du Brésil ravagée par le monde néolibéral et c'est Marine qui nous en parle.
This is Cinerama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
Mada est gouvernante, autre mot pour dire domestique en chef dans la luxueuse propriété de Edgar et Martha, un riche couple appartenant à l'élite brésilienne. Chaque été, en décembre donc, puisque nous sommes dans l'hémisphère sud au Brésil, le couple organise une grande fête au cours de laquelle Martha doit veiller à ce que tout se passe pour le mieux. Mais nous sommes en 2015, la lutte contre la corruption au Brésil se met en place et Edgar et Martha vont en trois étés glisser du luxe à la case prison. Mada va ainsi se retrouver en charge de la propriété et c'est ainsi qu'elle pourra enfin prendre sa revanche sur la vie. Alors il faut savoir, pour situer ce film qui commence en 2015, que depuis 2014, une opération anticorruption de grande ampleur a été mise au Brésil, appelée Lava Jato. Cette opération a pour but de faire le ménage dans les hautes sphères du pays en faisant tomber un maximum de politiciens corrompus. Le peuple brésilien vit depuis au rythme des interpellations qui ont déjà permis de mettre en prison bon nombre de notables corrompus et le quotidien est rythmé par les procès relayés en masse dans tous les médias du pays. Après son film Une seconde mère, la réalisatrice brésilienne Sandra Cogut place l'intrigue de sa 10e réalisation dans ce contexte troublé. Sandra Cogut a été initialement formée au cinéma par le biais du documentaire et cela se ressent. Un vrai souffle de vie traverse son film. On se surprend parfois à devoir se rappeler qu'il s'agit d'une fiction. Et pour cause, on est vraiment dans la chronique sociale interprétée par des comédiens incroyablement justes. La cinéaste, habituée généralement à caster des acteurs non professionnels, a ici pourtant fait le choix de comédiens aguerris. On retrouve notamment Regina Casé, qui avait déjà joué dans Une seconde mère de Sandra Cogut et qui porte littéralement le film sur ses épaules ici. Elle a d'ailleurs reçu plusieurs prix d'interprétation sur des festivals brésiliens. Elle compose un personnage ici d'une naïveté déconcertante et d'un optimisme absolu qui est véritablement le cœur de ce drame doux amer. Trois étés présente par ailleurs quelques similitudes avec Parasite de Bang Joon-ho, déjà pour le point de vue adopté par la réalisation du côté des personnages pauvres qui sont dépeints avec une certaine tendresse et pas mal d'humour grinçant. Comme Parasite, le film explore les rapports entre les puissants et les faibles et comment ce rapport peut parfois s'inverser. Et comme dans Parasite, Trois étés n'est jamais manichéen, évitant avec soin de diaboliser les personnages riches et évitant tout autant de représenter les personnages pauvres comme uniquement positifs. Alors seul bémol, Trois étés présente une certaine lenteur, ou plutôt une lenteur certaine, qui empêche le film de décoller, faisant parfois décrocher le spectateur, happé par la torpeur de cet été brésilien.
Trois étés de Sandra Cogut fait partie des films qui sont en reprise dans les salles de cinéma. En revanche, voici une sortie du 1er juillet, Brooklyn Secret, le portrait d'une femme libre, transgenre et immigrée sous Trump.
Comment faites-vous pour choisir un film ?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Précisez.
C'est ainsi, la situation veut que ce sont les petits distributeurs qui osent sortir des films dans les salles de cinéma qui ont maintenant rouvert. Et qui dit petit distributeur dit souvent petit film sans que ça soit péjoratif, c'est souvent une petite économie. Le réalisateur, souvent considéré comme auteur, s'empare d'un sujet souvent proche de lui et le traite au moyen d'un récit n'exigeant pas une débauche d'effets spéciaux ni de techniciens ou de décors. Il sait limiter ses envies au niveau du casting quand il ne décide pas de tourner avec des inconnus. Et c'est le cas de Brooklyn Secret d'Isabelle Sandoval dans les salles depuis le 1er juillet. Alors si on grossit le trait, le film raconte l'histoire d'une immigrante philippine transgenre et sans papier à New York et qui essaie d'obtenir la nationalité américaine sous l'administration Trump. C'est le fil du récit et c'est une partie de l'histoire de la réalisatrice qui a fait sa transition du genre masculin au genre féminin, je crois, il y a une dizaine d'années. Alors s'étant retrouvée étrange genre et immigrée dans un pays gouverné par Trump, elle a ressenti angoisse et inquiétude. Le film est la traduction de cet état d'esprit.
That man that was paying him to marry me for a green card. quoi, Jess ?
Dans Brooklyn Secret, on suit Olivia, la jeune femme d'origine philippine qu'on voit dans une première séquence placée dans un rôle d'immigrée chargée de renvoyer de l'argent à tous ceux qui sont restés au pays, travaille comme soignante auprès d'Olga, une grand-mère russe ashkénaze de Brighton Beach à Brooklyn. Alors on apprend qu'en plus d'envoyer de l'argent dans son pays, eh bien elle tente d'obtenir ses papiers américains en contractant un mariage blanc. Mais rien n'est simple et heureusement il y a sur son chemin Alex, le petit-fils de la femme dont elle s'occupe. Lui revient d'on ne sait où et plane autour de lui bien une aura de loser alcoolique. Ces deux personnages vont se rencontrer, peut-être s'aimer, mais chacun va devoir dépasser le sentiment de honte et de culpabilité qui les anime. Olivia a peur d'avouer à Alex qu'elle est transgenre et Alex, qui découvre qu'elle l'est, eh bien, compte tenu de son éducation, est vite dans le rejet. Alors cette histoire est simple et les personnages le sont aussi. Olivia, la transgenre interprétée par la réalisatrice elle-même, n'a rien de sophistiqué mais dégage une féminité sereine. Le personnage d'Alex est quant à lui l'archétype d'un homme qui apparaît sûr de lui, au premier abord hétéro, et macho. Alors s'il y a cette histoire d'amour, elle se construit tout de même sur un climat anxiogène rythmé par des débats sur l'immigration et des arrestations de sans-papiers au coin de la rue, ce qui ne rassure en rien Olivia, qui a tendance à ne plus mettre un pied dehors ou raser les murs. Autant dire que la ville est à Alex, le personnage masculin. Hein. Il y a quelque chose de doux dans ce troisième long métrage de la réalisatrice philippine, quelque chose de simple aussi, avec Brooklyn Secret. Isabelle Sandoval emporte le spectateur dans une histoire d'amour au contour pas si évident. Alors d'origine philippine, Isabelle Sandoval réalise ici un film bien éloigné du style réaliste d'un de ses illustres compatriotes, Briante Mendoza, tant elle préfère la poésie ou l'attention documentaire à l'exposition brutale. La mise en scène est discrète, sans artifice, mais appuyée par une belle image. Hein, et en termes de récit, à noter qu'il s'agit d'une forme en épanadiplose. Ce que toi, Guillaume, qui enseigne le cinéma, tu connais cette forme. Alors, je connaissais pas le terme, mais ce sont pourtant des procédés que l'on voit de temps en temps. Début et fin du film, en fait, se ressemblent. C'est une forme narrative qui clôt le film sur lui-même. Alors, une des formes la plus évidente dernièrement, on la trouve dans 1917 de Sam Mendes. Au début du film, il y a un personnage qui est contre un arbre, et à la fin du film, il y a ce même personnage qui est contre un arbre. Et au revoir, sortez de la salle. Eh bien, là aussi, le film nous montre que la vie continue, mais que quelque chose a changé et qu'on en a été témoin. Et on a été des témoins privilégiés de cette histoire. Brooklyn Secret de Isabelle Sandoval, c'est en salle depuis le 1er juillet. Nous allons entamer la partie ludique de cette émission avec le blind test spécial David Lynch. Pourquoi David Lynch ? Et bien parce que nous allons parler de la ressortie de Elephant Man, César du meilleur film étranger en 82.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Je ne suis pas un animal. Je suis un être humain.
Non, on peut parler d'une séquence célèbre.
Très célèbre. Et puis ludique, pas le film vraiment. Hein.
Non, je parlais du blind test.
Parce que là, pour le coup, Elephant Man, c'est peut-être un des films les plus tristes du monde.
Oui, mais je parlais du blind test, évidemment.
Alors 40 ans, hein, juste après sa réalisation, Elephant Man n'a rien perdu de sa splendeur. Hein. Il reste non pas le meilleur film de David Lynch, mais le plus limpide, le plus ouvert aux autres, de par sa thématique universelle et son traitement épuré et classique, en une entrée idéale dans l'univers d'un des plus grands créateurs de ces dernières années. Produit par Mel Brooks, hein, qui a une F1, parce qu'il est aussi le producteur de La Mouche de Cronenberg. Elephant Man n'en est pas moins un pur film lynchien qui s'acquitte merveilleusement d'une commande mêlant l'univers du mélo victorien traditionnel à la Dickens et l'ambiance plus trouble d'un Todd Browning. Et pourtant, ce n'était pas gagné. Le jeune David Lynch sort d'un pur trip expérimental, hein, le mythique Eraserhead, alors encore inédit dans nos contrées en 1980. Et le film sortira en France d'ailleurs juste après Elephant Man sous le titre Labyrinth Man. Alors, adapté d'une pièce de théâtre que David Bowie jouera sur les planches, hein, Elephant Man s'inspire de la vie tragique de Joseph, devenu John à l'écran, Merrick, qui vécut à la fin du 19e siècle, atteint depuis son enfance d'une maladie rare, la neurofibromatose, qui déforme la peau, en particulier le crâne créant des protubérances difformes. Alors, le reste du corps est désarticulé, se traduisant à l'écran par cette vision éprouvante d'un personnage ayant du mal à se déplacer en souffrance perpétuelle. Alors, comme si tout cela ne suffisait pas, il est victime de bronchite chronique, un corps malade et maltraité exhibé de foire en foire par Bites, hein, forain vicieux n'hésitant pas à torturer son gagne-pain. Alors le docteur Treves, un chirurgien réputé de Londres, intrigué par l'apparence de Merrick, demande à Bites de pouvoir l'examiner en détail contre une somme d'argent. Il décide de ne pas le rendre à son propriétaire, souhaitant entrer en communication avec un être plus intelligent que les apparences ne laissent supposer. John Merrick, un fric pathétique à la sensibilité exacerbée, va se confronter à sa propre humanité.
Je veux que vous me parliez. Et maintenant, je voudrais vous entendre.
Il faut que je vous entende dire quelque chose. Vous ne serez pas battu.
Je n'en dirai pas plus, hein, même si je pense que tout le monde connaît l'histoire de ce mélo déchirant d'une beauté visuelle sidérante. L'étrangeté parfois forcée des premiers travaux expérimentaux de l'auteur de Mulholland Drive trouve avec Elephant Man une raison d'être dans un cadre assez strict, hein, ne laissant que peu de place à la fantaisie. La rigueur de la reconstitution du Londres de la fin du 19e et l'extrême attention aux détails apportent un réalisme crédible, subverti néanmoins de l'intérieur par le regard un peu oblique, on va dire, de Lynch, qui ne se contente pas de suivre à la lettre un scénario extrêmement bien écrit et précis. Alors dès le générique, hein, magnifique, succession d'images oniriques montrant la naissance de l'homme-éléphant sur une musique de boîte à musique d'une tristesse infinie, Elephant Man impose un climat oppressant, envoûtant et dramatique qui ne lâchera plus un spectateur captivé par cette histoire tragique qui dépasse de loin le simple plaidoyer pour la différence, ce qu'il est évidemment aussi. Si Lynch montre un personnage qui retrouve goût à la vie, une certaine dignité, une envie de créer lorsqu'il est pris sous l'aile du docteur, s'intégrant alors à la bourgeoisie victorienne, il n'est pas dupe. Certes, Merrick n'est plus frappé, martyrisé et humilié, mais il reste toujours cette curiosité exhibée au regard des autres, à la fois fasciné et dégoûté, valorisant la bonne conscience de la haute société voulant se distinguer de la masse populaire. Alors le cinéaste renvoie dos à dos, riche et pauvre, hein, s'identifiant au docteur Treves, personnage complexe, tiraillé entre une empathie réelle envers le monstre et une soif de faire progresser la science, entre une volonté d'aider donc Merrick et une ambition carriériste. Bref, un homme déchiré qui va être le premier à se rendre compte des limites de son aide. Alors on pourrait gloser longtemps autour des thématiques abordées, de la richesse inépuisable de ce récit dont personne ne peut ou presque rester insensible, mais au fond il suffit juste de se laisser porter par cette fable universelle qui prend des allures de conte noir, un conte noir puisé dans un imaginaire très européen, convoquant aussi bien les fantômes de Dickens, d'Henry James, mais aussi de Grimm. Les comédiens sont merveilleux, y compris John Hurt, évidemment méconnaissable. Mais la surprise vient surtout, là avec le recul, d'Anthony Hopkins, peu connu en 80, qui endosse avec une grande sobriété le rôle du médecin. Il n'a jamais été aussi vrai, ne cabotinant pratiquement jamais, ce qui depuis n'est pas le cas. On peut aussi citer l'impressionnant Freddie Jones, qui campe le terrifiant Bites, et la lumineuse Anne Bancroft, qui était alors l'épouse de Mel Brooks. Enfin, le film ne serait rien, bien sûr, sans la photographie en noir et blanc d'une beauté inégalée de Freddy Francis, alliant horreur gothique et réalisme documentaire. Un travail de génie pour l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma, qui est aussi un excellent metteur en scène de films d'horreur gothique. Alors inutile d'en dire davantage, Elephant Man est un chef-d'œuvre et son final bouleverse toujours autant. Alors préparez vos mouchoirs pour ce film qui ressort dans une copie restaurée.
Évidemment, et donc sur grand écran. L'occasion donc de jouer un blind test, 5 extraits de la filmographie de David Lynch à écouter, une filmographie qui contient une douzaine de longs métrages sur à peu près 60 ans de carrière. Et bien tous ces films ont été à peu près salués par la critique, même les plus grincheux ont accordé quand même un grand crédit à ce réalisateur américain. Premier extrait.
Docteur Yue, avez-vous des informations sur les vers de la planète Arrakis ?
J'ai obtenu un livre bobine sur un petit spécimen qui ne faisait que 125 mètres de long.
Seulement ?
On a pu observer certains vers mesurant environ 450 mètres dans le désert profond. Mais nous vivons loin des sables à Arrakis.
C'est d'une, vu que c'est en plus son seul film de science-fiction, on peut pas vraiment se rater.
C'est souvent comme ça, les blind tests commencent facilement. Oscar 85 du meilleur son, seulement ça. Deuxième extrait.
Darling. Darling, tu nous apportes des verres. Je veux boire une bière avec Franck. Fais vite. Mais asseyez-vous donc.
Cher Ben, ça va chez toi?
Bien, très très bien. Et chez vous?
Foutrement bien. Foutrement bien.
Suavité et violence s'est trouvée, évidemment.
Blue Velvet.
Oui. Film de 86, et là on entendait bien le psychopathe Frank, interprété par Dennis Hopper. Troisième extrait.
Quel âge t'as commencé à fumer, toi ?
Je crois que j'ai dû commencer lorsque j'avais 4 ans. Ma mère a cané d'un cancer des poumons un an avant.
Quelle marque est-ce qu'elle fumait ?
Des Marlboro, pareil que moi. Je crois bien que ma mère et mon père aussi, c'est le tabac ou l'alcool ou les deux qui les ont tués.
C'est triste tout ça, quel malheur.
Tu tortures pas, chérie. D'ailleurs, je les connaissais à peine, tu sais. Question être parentage, j'ai pas été très gâté. À mon procès, mon avocat arrêtait pas de parler de ça.
Alors, facile encore, évidemment.
Oui, c'est Laurie Loula.
Film de 90, c'est Palme d'Or à Cannes, évidemment. Quatrième extrait.
Je n'ai que les yeux d'un vieillard, mais... C'est des pneus neufs, ça ?
Bon, écoutez, ce sont des pneus de récupération, mais les sculptures sont bonnes.
Mes amis, vous me faites payer pour du bon ou pour du neuf ?
Thorvald ?
Là, on peut vous faire un petit prix.
Eh bien, je crois que la réduction devrait être d'une trentaine de dollars. Votre stylo est du même avis.
Alors, ça discutait mécanique, donc c'est évidemment trouvé. C'est qui répond ?
Une histoire vraie.
Oui. Film de 99, alors c'est un peu comme Dune. Il y avait un montage de 4 heures au préalable qui a été ramené à 2 heures. Voilà. On a plutôt écouté bien des films un peu différents et ça va être encore le cas avec ce dernier extrait qui va clore ce blind test.
Les coups que t'as pris sur la tranche t'ont pas arrangé.
Qu'est-ce qu'il raconte celui-là, Albert ? C'est mon agent spécial, Dale Cooper. Pour l'amour du ciel, Jeffries, où étiez-vous passé ? 2 ans qu'on ne vous a pas vu. 2 ans !
Bien sûr, je vais tout vous dire. Et je n'ai guère de temps. Oh, mais croyez-moi, j'ai bien suivi.
Donc ça a été trouvé, c'était évidemment encore une fois facile, cette espèce d'ambiance étrange.
C'était Twin Peaks, Firework With Me.
Oui, sorti en 92 et préquel à la série télévisée, série maintenant culte. Voilà, ce blind test était l'occasion de revoir la filmographie de David Lynch. En 5 films. Alors, L'ombre de Staline, reconstitution des années 30 pour ce polar historique qui nous emmène à l'Est, et c'est toi, Guillaume, qui nous en parle.
This is Cinerama.
Et ça, c'est clair.
Paul Kleb est mort, tué par des voleurs il y a 3 jours.
Que voulez-vous ?
Ce dont personne n'ose parler.
J'ai vu le corps, 4 balles dans le dos.
Et vous refusez de croire à un vol. Sur quoi travaillait-il ?
L'Ukraine.
Le trésor de Staline.
Pour fuir l'arrivée de la chaleur estivale, je vous propose d'aller prendre l'air avec la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland dans les plaines enneigées de la Russie de l'entre-deux-guerres. La seule ombre au tableau, c'est que le voyage ne va pas être un parcours de santé. Dans le titre français, cette ombre, c'est celle de Staline. En version originale, le film s'appelle Mr. Jones, qui est le nom du héros, donc Gareth Jones, un jeune journaliste gallois qui va se mettre en tête d'interviewer le père des peuples. Ayant déjà son actif un entretien avec Hitler, fraîchement élu chancelier, Jones va continuer dans sa lancée et va aller enquêter sur le miracle soviétique des années 30. Cet idéaliste va se confronter de plein fouet à la politique du pays et va très vite comprendre que l'exercice de la propagande soviétique est tellement forte qu'elle va lui fermer toutes les portes au nez. S'armant de son courage et de ses idéaux, il va contourner au péril de sa vie les restrictions pour voir ce qu'il se cache derrière le rideau de fumée et va découvrir un envers du décor particulièrement sordide. Cette quête des confessions va essayer de briser les murs du régime et son grand silence, aussi enneigé que chez Corbucci. L'ombre de Staline n'est pas un coup d'essai pour Agnieszka Holland en ce qui concerne l'étude des manigances en off du monde de la politique et des pires heures du XXe siècle. Ici, elle s'intéresse à dépeindre l'Holodomor. Un peu d'histoire. L'Holodomor désigne, je cite, « la collectivisation forcée des campagnes par le régime stalinien dans le double but d'extraire de la paysannerie un lourd tribut indispensable à l'industrialisation accélérée du pays » et d'imposer un contrôle politique sur les campagnes. Vaste programme. Cela va amener à l'extermination de 7 millions de paysans et civils soviétiques au début des années 30, au cours de la dernière grande famine européenne survenue en temps de paix.
Qu'est-ce qui te pousse à faire tout ça ?
La quête de la vérité.
La tienne ou la leur ?
Ce qui se passe ici en ce moment va transformer l'humanité.
Nous devons arrêter Staline avant qu'il soit trop tard.
Qu'espérez-vous de moi exactement ?
L'Union soviétique n'a rien à voir avec la Terre promise.
Staline n'est pas celui que vous croyez.
Vous voulez dire qu'il n'y a aucun espoir ?
Dans une première partie, on pense forcément à son très grand frère, La Liste de Schindler, de Spielberg, le film de fiction référent sur l'Holocauste. Mais ça serait diminuer la vision de la réalisatrice de 71 ans qui se permet très vite quelques effets de mise en scène étonnants dans le cadre d'un film dit « historique ». Donc on note des accélérés destinés à montrer que l'errance du malheureux héros se transforme petit à petit en chemin de croix, ou quelques subtils jump cuts qui appuient le fait que les discussions entamées avec l'administration officielle vont être à sens unique et non pas harmonieuse, transparente et pacifique. pacifique comme promise. Si Agnieszka Holland fait assez souvent appel à une caméra portée suggérant l'urgence et l'instabilité, le gros du morceau esthétique du film, c'est donc cette découverte terrifiante de l'Ukraine, où le spectateur accompagne pas à pas le pauvre Monsieur Jones dans une terre de désolation, dans absolument tous les sens du terme. Cette partie est dégraissée de tout dialogue encombrant, laissant la parole aux conditions climatiques atroces et aux images marquantes, comme des cadavres de civils trouvés au bord des routes et des rues, un bébé à peine vivant pleurant sur le corps décharné de sa mère, ou encore les conséquences terribles de la faim qui frappe des enfants livrés à leur sort. On vous imagine comment ils s'en sortent. Ce qui est vraiment intéressant dans l'ombre de Staline, c'est l'écho que l'on peut retrouver avec l'actualité. Gareth Jones n'est en fait rien de moins qu'un lanceur d'alerte qui va se retrouver en première ligne et va payer de sa personne en prenant tous les risques possibles pour pouvoir dire la vérité au monde. C'est aussi un film qui n'hésite pas à souligner le silence bien calculé de certaines puissances mondiales face à la montée des régimes tyranniques, ces mêmes puissances mondiales qui valident la création d'États officiels et criminels pour cacher leur propre déconfiture économique et assurer le maintien d'un ordre qu'on imagine juteux pour certains commerces. Comme l'histoire avec un grand H nous l'a appris, on sait malheureusement comment tout cela se termine, et l'ombre du spectre de la Seconde Guerre mondiale, encore plus effrayante que celle de Staline, pointe bien le bout de son nez à l'issue de cette épopée éprouvante. Encore mieux, si on peut dire, le parallèle fait entre la quête du héros et la rédaction du chef-d'œuvre de George Orwell, La ferme des animaux, achève de nous impliquer de façon pertinente dans cette lutte toujours renouvelée contre le formatage et le totalitarisme. La grande phrase du récit, qui arrive vers la fin, c'est « Si nous le laissons, donc Staline, affamer son peuple, d'autres suivront ». On voit là synthétiser toute la portée militantiste du film, qui dénonce autant les tyrans que les passifs, et rappelle la célèbre phrase d'Edmund Burke « Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien ». Ce combat pour la liberté d'information n'est pas sans rappeler un autre film de Steven Spielberg, celui-ci un petit peu plus récent, l'excellent Pentagon Papers, qui date, je crois, d'il y a à peine 2 ans. Donc ce Mr. Jones est bien moins réjouissant que la balade du même nom des Counting Crows, mais il serait dommage pour les amateurs de fiction historique assez bien emballés de s'en priver, surtout qu'avec cette météo, le coup de froid est assuré.
L'ombre de Staline, c'est un film qui est sorti en même temps que les salles ont réouvert. Voilà un documentaire qui ne laisse aucun mystère sur son sujet. Mon nom est Clitoris, et c'est un documentaire belge dont nous parle Marine.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinerama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Est-ce que tu te souviens si on t'a parlé du clitoris en classe?
Je me souviens que non.
Il est grand, en fait. Genre, ça vient jusque-là, je crois.
C'est la taille d'un pénis. C'est la même chose.
C'est la taille d'un pénis?
Ouais, qu'on a à l'intérieur, ouais.
11 cm, ouais. Enfin, 11 d'un petit pénis.
Quoi? On le sous-estime complètement.
L'essentiel est dans le titre. Les réalisatrices du documentaire Mon nom est Clitoris, Lisa Biloir-Monet et Daphné Leblond, ont pour ambition de nommer clairement cet organe trop longtemps invisibilisé. Nommer les choses pour les faire exister et ainsi abolir des siècles de négation du plaisir féminin. Dans ce documentaire, les deux très jeunes réalisatrices belges donnent la parole à plusieurs femmes qui ont elles-mêmes moins de 25 ans. Le dispositif imaginé par les documentaristes est simple et radical. Face caméra, ces jeunes femmes se livrent sur leur propre sexualité à visage découvert avec leurs propres mots. Elles racontent leur rapport à leur corps, les premières sensations sexuelles, la première fois qu'on leur a parlé de sexe, la première masturbation. Il est question également beaucoup du champ lexical de la sexualité, presque entièrement défini par les hommes. Il est beaucoup question de la censure latente mais tangible qui existe depuis la nuit des temps lorsque l'on tente d'aborder le sexe du côté des femmes.
C'est peut-être ma façon de militer. C'est peut-être pour ça que je parle beaucoup de sexe autour de moi, mais je pense que c'est aussi une façon de, voilà, de revendiquer le fait que oui, on peut être une fille et oui, ça peut nous intéresser beaucoup. Et non, ça ne veut pas dire que nous sommes des salopes.
Qui dit dialogue autour de la sexualité féminine dit forcément démarche féministe. Ici, le féminisme se veut intersectionnel, c'est-à-dire qu'à travers les femmes interviewées, le documentaire croise des problématiques telles que le racisme, la grossophobie, l'homophobie, permettant d'ouvrir le dialogue et la réflexion. Ce que le documentaire démontre bien, c'est à la fois la maturité, l'ouverture d'esprit de ces jeunes femmes encore entre l'âge adulte et l'adolescence, et en même temps le manque d'informations dont elles ont en quelque sorte souffert toute leur vie. La démarche audacieuse, frontale, simple, permet de mettre en exergue l'absence évidente d'éducation au plaisir féminin dans nos sociétés et ainsi de rappeler que l'organe du plaisir féminin porte un nom et que son nom est clitoris.
Vous avez fini?
Eh bien,
Oui, je crois que oui. Oh,
c'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Non, vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
On a appris deux mots aujourd'hui, Holodomor et Épanadiplose. La semaine prochaine, on sera en mode estival, peut-être un peu plus léger. En tout cas, ce sera une émission plutôt faite à base de blind test. Et puis, on conserve une partie actualité, puisqu'il faut soutenir les salles de cinéma qui ont ouvert il y a peu de temps.
Cinérama.